Nous l'avions promis et nous allons repartir pour cette, je crois que c'est la plus belle capitale du monde, oui. Paris, mais on en parle d'une façon moins touristique, hein, votre sujet. Bonjour Philippe Nouni.
Bonjour Philippe Subercase.
Bonjour Diego Raval.
Bonjour Philippe. Diego Raval. Et bonjour Philippe.
Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition qui est donc la maison d'édition de ce livre.
On fait donc la continuité de la semaine passée. Oui. On va de nouveau avoir Roger Martelly qui est avec nous aujourd'hui pour Commune 1871, la révolution impromptue aux éditions Arcane 17. Pour parler, je l'ai dit la semaine passée dans le propos liminaire, pour parler de la Commune de Paris, qui est quand même un événement qui n'est pas forcément très connu. Moi, je me suis rendu compte que j'ai appris beaucoup de choses dans le livre de Roger Martelly. Alors, soit je les ai oubliées, soit je ne les ai jamais apprises. Je pense que pour la plupart...
Vous ne l'avez jamais apprises.
Voilà, je ne les ai jamais apprises. Et on va reparler donc avec lui, effectivement, de ces événements. Bonjour, Roger Martelly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc à nouveau aujourd'hui donc pour parler de la Commune de Paris. Alors, Philippe Subercase, tout à l'heure, disait... Paris, Paris, c'est vrai que Paris aujourd'hui, Philippe Subercase, je ne sais pas si vous le savez, mais le Sacré-Cœur, c'est un monument religieux qui a été monté suite à la Commune de Paris en 1871.
Pour expier les péchés.
Pour expier les péchés. Et ça, très peu de gens le savent. Les gens aujourd'hui vont, ils regardent Paris, etc., tout, sans forcément effectivement se souvenir du symbole. D'où le fait de rappeler que Paris, c'est beau, mais ça a aussi une histoire.
Ah oui, c'est une histoire, oui.
Et que le but...
Il s'en est passé des choses à Paris.
Et il s'en est passé des choses.
Belles et des moins
et
belles.
Et des moins belles. Et là, on parle effectivement des un peu moins belles. Alors, on parlait de vous, on parlait la semaine dernière, pardon, Roger Martelly, avec vous, du mur des fédérés. Du fait qu'il y avait des personnes, effectivement, qui avaient été déportées. Comment vous expliquez que... ce n'est qu'en 2016 que les héritières affirmées donc, de la Commune de Paris et surtout qu'on a reconnu donc, effectivement l'héritage de la Commune de Paris. Pourquoi, à votre avis, il a fallu attendre aussi longtemps pour qu'il y ait cette reconnaissance au niveau de l'Assemblée nationale ?
Ah, pourquoi il a fallu autant de temps ? Mais, c'est finalement assez facile à comprendre. Parce que cette Commune de Paris, ça a été évidemment, on l'a dit la semaine dernière, la possibilité pour tous les mouvements émancipateurs de rêver sur elle. Mais c'est un événement qui s'est terminé par un bain de sang épouvantable.
Combien de morts aujourd'hui?
Les chiffres, ça fait depuis... j'allais dire la commune elle-même, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Les chiffres ont oscillé, j'allais dire entre 6 000 morts, évidemment avant tout du côté des communards, des partisans de la commune, jusqu'à 30 000. Aujourd'hui, on considère que ça doit vraisemblablement se situer quelque part entre 17 et 20 000 victimes, disons. Hein. Mais bon, bref. En tout cas, encore une fois, on l'a dit la dernière fois, le plus grand massacre de population civile qu'on ait connu depuis les guerres de religion, vous voyez que ça faisait une paye. Donc c'est un événement, j'allais dire, qui a un côté traumatisant. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1880, l'Assemblée nationale, qui est devenue républicaine, n'oublions pas que au moment où se déroule la Commune de Paris, il y a une Assemblée qui a été élue en février 1871 et qui est archi-dominée par des monarchistes, ce qu'on appelle les légitimistes ou orléanistes, peu importe, c'est dominé par des monarchistes. Et il faut attendre 1877-1879 pour que les républicains deviennent majoritaires dans la République. Et l'un de leurs premiers actes, qui a été exigé par, j'allais dire, beaucoup de personnalités du courant républicain depuis 1871, je pense d'abord à l'immense figure de Victor Hugo, demande l'amnistie la réhabilitation de ceux qui ont été condamnés en 1871 et de ceux qui sont morts à cette occasion. Et en 1880, l'Assemblée devenue républicaine décide d'amnistier les condamnés de la commune. Mais amnistier, pas réhabiliter. Amnistie, ça signifie qu'on efface la peine, mais on n'efface pas la condamnation. Et les élites républicaines, qui sont à ce moment-là encore très conservatrices, ont finalement retenu de Victor Hugo une image. Victor Hugo disait l'amnistie, ça permet d'effacer les souvenirs de l'année terrible. Et donc, d'une certaine manière, il y a une conception officielle de l'amnistie qui renvoie plutôt à l'amnésie, c'est-à-dire à la perte de mémoire. Et au fond, le silence qui a pesé sur la mémoire de la Commune de Paris, en dehors du mouvement ouvrier qu'il a toujours célébré, mais le silence officiel dans la mémoire nationale sur la Commune de Paris est, j'allais dire, le contre-pied, le contre-coup de ce traumatisme des élites dirigeantes qui, à un moment donné, ont eu l'impression que la société était en train de leur échapper. Et il a fallu attendre, effectivement, 2016, c'est-à-dire pratiquement un siècle et demi, pour que la même Assemblée nationale qui avait amnistié les communards condamnés en 1880 décide non seulement de confirmer, bien entendu, l'amnistie, mais de la prolonger en réhabilitation. L'Assemblée nationale, en 2016, décide officiellement que la Commune de Paris doit devenir une pièce intégrante de la mémoire nationale.
C'est un vote à l'unanimité.
C'est évidemment pas. C'est pas un vote à l'unanimité, mais quand même, on obtient cette décision, obtient une majorité de l'Assemblée en 2016. Voilà. Et bien, c'est un grand moment. C'est un grand moment parce qu'effectivement, pendant un siècle et demi, la Commune a été oubliée, volontairement oubliée. On a mis une chape de plomb sur la mémoire. Et bien, cette chape de plomb a sauté. Je pense qu'il faut en profiter. Le 150e anniversaire a été l'occasion de beaucoup d'initiatives culturelles, politiques, associatives autour de la Commune de Paris. Le fait que la figure de Louise Michel se soit trouvée au cœur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques indique que quelque chose s'est produit. Il faut en profiter, il faut cultiver cette mémoire. Il faut la cultiver pour ce qu'elle est, dans sa diversité. Respecter le fait que la Commune de Paris n'appartient à personne en particulier, mais appartient à tous. Et que d'une certaine manière, cette expérience, cette mémoire, cette affection et cette passion pour la Commune de Paris doit être un élément, un ferment de rassemblement de tous ceux qui continuent un siècle et demi après de rêver à l'émancipation.
Philippe Subercaz a une question pour vous.
Si on regarde par exemple les commentaires sur Wikipédia, on dit que les Parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers qui veut désarmer la garde nationale et empêchant l'enlèvement des canons de la garde nationale. Le gouvernement donc quitte Paris pour Versailles. C'est les événements.
Oui.
Quel regard vous avez aujourd'hui sur en fait le désintérêt, quand on voit que il y a des gens qui étaient capables de se mobiliser, de descendre dans la rue, voire même de jouer leur vie pour
ils ont joué leur vie
pour la démocratie,
des hommes comme des femmes ont combattu aussi.
Et en compagnie avec leurs enfants en famille, ils sont descendus pour dire stop, c'est plus possible. Et quand vous voyez aujourd'hui le désintérêt pour aller voter, quel est votre regard, et quand on voit qu'il y a des gens qui étaient prêts à mettre leur vie pour leur conviction, et qu'aujourd'hui, quand on discute avec les gens, tout vaut tout, personne ne va voter. Parce qu'on rappelle que, par exemple, les femmes, il n'y a pas si longtemps qu'elles ont le droit de vote, juste après la guerre.
1946.
Et qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour avoir ce droit, et qu'aujourd'hui, alors, bien sûr, on peut ne pas avoir de conviction et se dire que tout le monde est... Mais, aller voter nul, blanc, il y a des possibilités pour dire bon, je reconnais personne, mais je fais cet acte d'aller voter. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle des politiques, c'est tous pourris, et donc on se déplace plus. Mais qui est capable aujourd'hui, qui serait encore capable de descendre dans la rue et jouer sa vie pour des convictions?
Moi, je pense qu'il y a, de ce point de vue, un potentiel qui est au moins aussi grand que celui de l'époque de la Commune. Ah oui, je le pense profondément. Quand on Nous avons vécu l'an dernier, par exemple, un mouvement social d'une ampleur insoupçonnée. Le mouvement sur la question des retraites, derrière la question des retraites, il n'y a pas simplement, j'allais dire, une question d'annuité ou des petites questions techniques. Il y a la question de savoir, à un moment donné, il y a la possibilité, à un moment donné, de permettre à des gens, à l'issue d'une période de longue période de travail, de pouvoir vivre dans la dignité, de pouvoir vivre de façon à s'engager dans d'autres choses qu'une activité professionnelle, s'engager dans des associations, etc., etc. Bref, il y a l'idée, à un moment donné, que une société ne peut fonctionner, encore une fois, que sur la base de l'émancipation. Ça, je pense que cette conviction, elle est profondément ancrée. Simplement, il manque peut-être quelque chose. Au fond, si on réfléchit, en 1871, nous sommes finalement moins d'un siècle après le déclenchement de la Révolution française. Oui. Nous sommes dans une période qui est marquée par l'idée révolutionnaire. Cette idée, à un moment donné, la société doit être une société d'égalité. Vous savez que les sans-culottes parisiens, pendant la Révolution, ils parlaient de l'égalité sainte. C'est-à-dire que pour eux, il ne peut pas y avoir de société libre si ce n'est pas une société composée par des individus égaux entre eux. L'égalité. Eh bien, en 1871, cette idée est encore ancrée profondément dans les cultures populaires. Mais ce qu'il y a à l'époque, c'est justement que les gens qui sont exploités, qui sont dominés, qui sont aliénés, à cette époque-là, ils ont le souvenir de la Grande Révolution. Et donc, ils ont comme perspective l'idée que la lutte, c'est pas simplement une lutte contre quelque chose, contre une société d'injustice existante, mais qu'il y a la possibilité de rêver à une autre société possible. La question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que, malheureusement, les expériences qui ont été, par exemple, celles du XXe siècle, sont des expériences à double tranchant. Il y a eu au XXe siècle des grands mouvements émancipateurs. Les révolutions, communistes du début du siècle en Russie, les mouvements d'émancipation du monde colonial, les grands mouvements, j'allais dire, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, contre les discriminations, etc. Tout ça, ça a marqué le XXe siècle. Mais le XXe siècle, ça a été aussi celui des illusions déçues. Ça a été celui du retournement dans de nombreuses sociétés. Je pense à ce qui s'est passé à l'est de l'Europe ou en Chine ou ailleurs, où l'idéal d'émancipation s'est retourné dans son contraire, a débouché sur des sociétés qui étaient des sociétés dans lesquelles il y avait une attention au social, mais dans lesquelles, par exemple, l'exigence de liberté était foulée aux pieds. Eh bien, tout ça, ça a permis, l'idée d'émancipation, l'idée d'égalité, l'idée de citoyenneté. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des tas de gens qui rêvent de quelque chose d'autre. Mais ce qui manque, c'est la conviction que on peut réellement construire autre chose que la société dans laquelle nous vivons.
Je veux dire,
donc,
un extrait.
D'une certaine façon, en 1871, les ouvriers parisiens rêvaient à la République démocratique et sociale, la sociale, comme on disait. Le mouvement ouvrier, pendant des décennies, s'est construit autour de cette expérience, cette espérance. Et c'est cette espérance qui faisait que la colère sociale ne se transformait pas en ressentiment, mais en combativité. C'est ça, la Commune de Paris. C'est ça, l'histoire du monde ouvrier. Et ce qu'il faut, au fond, aujourd'hui, c'est le lien entre la colère et l'espérance.
Ouais, je vais lire Roger Martelly, justement, pour aller dans votre sens. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant dans votre livre, dont je rappelle le titre, La Révolution impromptue, donc aux éditions Arcane 17. Je rappelle également que vous êtes donc historien et que c'est un travail de recherche que vous avez réalisé. Vous avez des annexes. Et dans les annexes, vous mettez notamment en page 186... cette annexe de la mairie du 3e arrondissement, qui date du 23 avril 1871 et qui est une annexe sur les écoles laïques que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Voilà ce qu'elle dit. Citoyen, le terme est fort, hein, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est pas sujet. Citoyen, ce que vous réclamiez avec nous depuis si longtemps, ce que les hommes du 4 septembre nous avaient refusé, l'instruction purement laïque est un fait accompli pour notre arrondissement. Par notre sollicitude et les soins de la commission d'enseignement des rues Ferdinand Berthoud, Neufbourg-l'Abbé et de Béarn est à partir de ce jour confiée à des instituteurs laïques. Nous espérons, pour l'avenir de notre pays, que ces institutions, que ces instituteurs formeront des citoyens instruits de leurs droits et de leurs devoirs envers la République. Paris, le 23 avril 1871, les membres de la Commune, Arnaud, Demey, Clovis Dupont, Pindy. Et ça, je trouve que c'est exemplaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié que vous citiez cela parce que ça donne un exemple précis de, des objectifs que se donne la Commune. Et quand je dis la Commune, c'est là le troisième arrondissement de Paris.
Bien sûr.
Et qui espère pour la République et qui s'adresse aux gens en ne disant pas ben, dans un royaume, hein, c'est des sujets, dans l'empereur c'était des sujets, mais qui dit citoyen, c'est-à-dire qui d'emblée reconnaît ces gens comme des citoyens et veut les former pour les faire devenir citoyens pour qu'à un moment donné ils s'inscrivent effectivement dans cette histoire de la République. Moi c'est là où je trouve qu'il y a cet objectif. Et alors la question que j'avais par rapport à ça, c'est quelle a été dans le mouvement de la Commune de Paris, la place des femmes.
La place des femmes a été considérable, avec une un bémol quand même qui n'est pas secondaire. C'est les femmes sont au cœur du mouvement de la Commune de Paris. Elles sont directement associées aux réalisations décidées par la Commune de Paris, mais on ne leur donne toujours pas le droit de vote. Voilà. Hein, donc il y a, j'allais dire, une double face à la question des femmes et de la Commune de Paris. Les femmes sont au cœur du mouvement de la Commune. Elles participent aux discussions, elles participent à la vie des clubs, elles sont directement associées aux activités officielles de la Commune de Paris, mais elles n'ont pas le droit de vote. Voilà. Donc ça, c'est la complexité qui est la complexité de l'histoire française. Hein. Mais il n'en reste pas moins que les femmes sont au cœur du mouvement. Voilà. Et que ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça a marqué les consciences. Hein. Et cela a permis, notamment dès la fin du 19e siècle, d'avoir un mouvement, j'allais dire, qu'on appellera par la suite féministe.
Et le mouvement des suffragettes.
Voilà, les suffragettes, mais qui s'expriment à l'intérieur du mouvement ouvrier par l'organisation ouvrière. Les ouvrières vont devenir, par exemple, la part entière des éléments du combat pour l'émancipation ouvrière, pour la libération sociale. Ça, c'est la Commune de Paris. Mais entre parenthèses, il y a quelque chose quand même qui doit faire réfléchir. Hein. La Commune de Paris, elle brûle la guillotine. La peine de mort, voilà, elle est contre la peine de mort. Elle proclame la séparation de l'Église et de l'État. Elle décide que l'école sera gratuite et sera laïque. Elle va décider que les ateliers qui ont été abandonnés par leur patron pendant la période de la guerre et qui sont restés déserts, vont devenir à un moment donné la propriété des travailleurs eux-mêmes qui vont gérer l'entreprise en question. Voilà ce que décide la Commune de Paris. Il a fallu attendre les années 1880 pour que l'école devienne libre, gratuite, laïque, obligatoire, avec les lois de Jules Ferry, qui, entre parenthèses, était un des massacreurs de la Commune. Mais passons. Il a fallu attendre 1905 pour que l'Église et l'État soient séparés l'un de l'autre, que l'État soit libéré de l'empreinte de l'Église, mais que l'Église elle-même ne soit plus dominée par l'État. Et il a fallu attendre le Front populaire et la libération pour les grandes lois sociales et en particulier pour les nationalisations. Au fond, on peut se dire, mais que de temps perdu. on a massacré la Commune de Paris, qu'a gagné la République, elle a pris du retard. Elle a pris du retard, et d'une certaine manière, le retard pris, c'est que cette République, qui n'a plus été véritablement contestée, sauf pendant la période de la collaboration, cette République, à la fois, a été solide, mais il lui a manqué quelque chose pour devenir véritablement une appropriation populaire. Une République qui n'est pas à la fois démocratique et sociale, au bout d'un moment, les individus qui la composent finissent un peu par se détourner d'elle, considérer que bon, c'est pas si intéressant que ça. Et à ce moment-là, par exemple, le peuple souverain finit par abdiquer lui-même sa souveraineté. Le développement de l'abstention, pour une part, c'est un abandon de la souveraineté proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui est au cœur de l'affirmation de la Commune. Parce que ce qui est le plus important dans la Commune, c'est l'idée qu'à un moment donné, les catégories populaires disent « Nous n'avons pas, nous en avons assez d'être dominés ou simplement représentés par d'autres, nous voulons être véritablement souverains ». Et c'est ça qui est l'idée qui est au cœur de la Commune, et c'est sans doute ce qui est la plus grande modernité de la Commune. Un peuple ne peut pas être véritablement libre s'il n'est pas pleinement souverain, et pour être pleinement souverain, il faut qu'il soit concrètement associé à toutes les décisions. Entre parenthèses, ce que nous vivons de vivre depuis quelques semaines montre que nous en sommes évidemment manifestement bien loin. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça qu'il faut se souvenir de l'expérience de la Commune de Paris.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Roger Martelly.